Bien, allez, on va commencer. Les 5 minutes girondines au bord de la Sonde étant passées. Donc, merci, bonsoir d'être présent pour. Donc, voilà, j'ai le plaisir d'accueillir à cette table donc, deux des protagonistes de ce très beau livre, Les Ferrets, un siècle d'architectes, questions d'art de vivre et d'habiter, paru aux éditions Bastingage. Donc, Christian Salnave, qui est le papa des éditions Bastingage, et donc qui a édité ce très beau livre, on en parlera après. C'est le beau livre qui soit dans le catalogue de cette jeune maison d'édition, jeune et courageuse maison d'édition, je le précise. Et puis Philippe Combe, photographe, donc qui a réalisé les photos de ce livre. Je tiens à saluer au premier rang, Pierre Ferret et sa fille Venezia, qui sont les deux derniers représentants de la dynastie Ferret, mais qui
Vénétien
sont
au
là.
deuxième rang.
Venezia ne s'est pas mise à côté de son papa. Donc, voilà.
Voilà.
Donc c'est son côté post-adolescent, peut-être. On ne va pas être à côté de. Donc, voilà.
On les fera se lever, on les fera se lever.
Voilà. Donc on va commencer par vous, Philippe Combe, puisque en fait donc vous êtes, je l'ai dit, vous êtes photographe, vous êtes spécialisé dans les photos d'architecture, et c'est vous qui avez eu donc un peu l'idée de ce livre au départ. Racontez-nous un peu la genèse de ce livre et comment est-ce que vous en êtes venu à rencontrer Christian Salnave pour que le projet aboutisse.
Alors, bonjour. En fait, je travaillais pour Pierre Ferret. J'avais rencontré Pierre Ferret il y a 3 ans, 4 ans, je crois. Et j'ai rencontré Christian Salnave à ce moment-là, qui travaillait au sein de l'agence. Et vraiment, au départ, voilà, par hasard, j'ai commencé à travailler pour Pierre Ferret. Et puis, plus j'avançais dans mon travail, hein, plus je me rendais compte, de manière assez incroyable, que c'était un architecte qui était reconnu au niveau national, au niveau bordelais, par ses pairs, par les différents archis avec qui je pouvais travailler. Et paradoxalement, il n'y a jamais rien eu d'édité sur la famille Ferré. Il n'y a jamais eu aucune exposition sur la famille Ferré. Il y a un centre d'architecture Arc en Rêve à Bordeaux qui fait l'exposition internationale. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, il n'y a jamais rien eu de réalisé sur eux. Et puis finalement, en creusant, voilà, en discutant avec Christian Salnave, je me suis rendu compte effectivement que ce n'était pas une génération, mais 4 générations d'architectes. Et puis voilà, finalement, de fil en aiguille, il me paraissait assez logique de commencer à creuser ce sujet et puis de m'intéresser à la genèse de cette grande famille d'architectes. Et puis lorsque j'en ai parlé à Christian, il m'a dit qu'il était éditeur. Bon, voilà, un éditeur, un photographe, a priori, ils ont des choses à faire
Ça peut
ensemble.
coller, oui.
Et finalement, voilà. Alors, il se trouve qu'après, j'ai rencontré quelqu'un qui était intéressé également pour assurer une partie du financement de ce livre. Bon, voilà, finalement, c'était autant de moyens de mettre la machine en route.
Et alors, quand vous étiez au cabinet de Pierre Ferret, c'était pour travailler sur des projets
Oui, alors,
de Pierre Ferret.
Exactement. Un architecte, il a besoin de montrer ce qu'il réalise. Il a besoin de constituer des books. Donc, pour ce faire, il passe par un photographe d'architecture. Et c'était là, effectivement, que j'intervenais.
D'accord. Parce que, alors, vous, pour parler un peu de vous, avant qu'on revienne sur le livre et les Ferrets, donc vous êtes spécialisé
en fait,
dans les photos d'architecture. Vous êtes vous-même passé par l'architecture. Souvent, c'est le cas. Non, pas du tout.
Non. Moi, j'ai un parcours qui est. Au départ, j'étais journaliste, enfin photojournaliste à l'AFP. Il se trouve que de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à l'architecture. J'ai travaillé avec l'UNESCO en 2003 sur des questions d'architecture. Un petit passage par le HESS, puisque je me suis aussi intéressé à l'anthropologie de l'architecture. Puis, de fil en aiguille, architecte et photographe, les besoins sont un peu les mêmes. L'ego, en général, peut être le même. Bon, voilà, on a des choses à se dire et c'est toujours intéressant.
D'accord. Et alors, pour ce livre, par exemple, combien de photos ont été nécessaires? J'imagine que vous avez un matériel, parce qu'il a fallu que vous alliez refaire les photos de 4 générations, de Pierre Ferret, le grand-père de Pierre Ferret ici présent, de Claude Ferret, qui, on le sait, a beaucoup travaillé à Royan, de Pierre Ferret lui-même, de sa fille Venezia.
C'est un peu compliqué. Alors, pour Claude, Pour Pierre Ferré, le premier, ça a été, il y a encore un matériau qui existe, à Bordeaux notamment. Bon, il y a eu un gros travail d'iconographie, de reproduction d'iconographie. Et il y a eu également un travail de photographie patrimoniale. Il reste encore, il reste encore quelques créations qu'on voit dans le livre. Je pense à la maison qui se trouve à la rue Carnot, à la banque, l'ancienne banque algérienne. Pour Claude Ferré, ça a été un peu compliqué. Parce qu'il y a eu un gros travail de démolition et de saccage de ce qu'il a fait, notamment à Royan. Et là, ça a été effectivement plus compliqué de travailler. Finalement, sur Claude Ferré, il reste malheureusement pas grand-chose. Il reste le palais des congrès à Royan qui a été saccagé de manière abominable. Il reste la caserne de Benoge qui a été aussi défigurée.
Qui n'est pas en meilleur état, il faut le dire quand même. Oui.
Donc malheureusement, il ne reste pas grand-chose. Pour Pierre Ferré, malheureusement, il y a un matériau qui est plus vaste et qui s'inscrit un peu partout en France finalement.
D'accord. Donc ça veut dire qu'on y reviendra. Pierre Ferré a construit beaucoup de stades d'équipements sportifs, mais en France et également aussi dans le monde. Ça veut dire que vous êtes allé photographier tous les équipements qu'a réalisé Pierre Ferré, ou il y a eu une sélection au départ?
Alors il y avait déjà toute une partie des matériaux qui existaient, que j'ai réalisé lors de ma collaboration avec Pierre Ferré. Il y a eu effectivement différentes images qui ont été réalisées pendant la production du livre. Je pense à Toulouse, je pense à Clairefontaine. Il y a eu pas mal d'images aussi qui promenaient du fond Ferré. Je pense notamment à la dernière réalisation de Venezia Ferré. Je crois que c'était tout. Et non, je ne me suis pas rendu à l'étranger.
D'accord. Alors, je reviens à Pierre Ferré, l'ancien, si je puis dire, le premier de la dynastie Ferré. Vous parliez algérienne, la compagnie algérienne, pardon, excusez-moi, je cherchais un mot. Donc, il y a aussi quand même qui existe toujours, il y a l'hôtel Frugès qui est Place des Martyrs de la Résistance, qui est quand même une des réalisations principales de Pierre Ferré.
Il y a l'hôtel Frugès, il y a les bains-douches de Buscaillet, qui sont du côté de Bacalan.
Et les deux maisons avenue Carnot.
L'hôtel de la Boutière. Bon, il y a encore effectivement toute une série de réalisations qui sont relativement bien préservées quand même.
D'accord.
C'est finalement assez, de manière assez étonnante, c'est vraiment Claude Ferré qui a pu s'être martyrisé par le temps et puis par les différentes autorités locales.
Est-ce que c'est facile de photographier justement des réalisations architecturales, d'essayer de... Il y a des angles particuliers à trouver. Comment est-ce que vous avez travaillé dans l'optique justement de faire un livre, pas d'architecte, hein, parce qu'on va en parler avec Christian justement, c'est pas une biographie, il faut bien le préciser, c'est pas une biographie des Ferré, hein, ça n'est pas du tout le choix du livre. Mais voilà, c'est quand même, il y a un angle particulier que vous deviez choisir. C'était un peu justement voir comment les œuvres avaient résisté dans le temps, comment justement les utilisateurs, etc., jugeaient encore le travail des Ferré.
Alors pour les deux premiers, pour Pierre Ferré l'actuel, si je puis dire, il faut qu'on trouve un terme pour les différencier.
Pierre Ferré junior, on va dire.
Pour Pierre Ferré, là, l'approche était différente. Il y a eu beaucoup de photos qui ont été réalisées lors de ma collaboration avec lui. Donc là, l'angle, c'était vraiment l'œuvre à part entière. Et puis ça s'apparente à un travail classique de photographe d'architecture. On doit photographier une œuvre, une création, et on la contextualise, on s'intéresse à ses détails. Ça, c'est un travail assez classique. Pour les deux premiers, oui, effectivement, il y avait à la fois ce besoin de sanctifier, en tout cas pour moi, de sanctifier une architecture qu'on a, pour Claude, en tout cas, malheureusement pas reconnue ou oubliée pour certains. Et puis en même temps, ce besoin effectivement de contextualiser dans le temps, dans le lieu des réalisations.
Oui, tout à fait, puisque évidemment, depuis que Pierre Ferré et Claude Ferré ont construit, L'environnement a beaucoup changé, par exemple, notamment, évidemment, on en parlait de la caserne des pompiers de la Benauge. Ça n'est plus du tout le même environnement que quand ça a été créé au milieu des années 50.
Oui, mais alors, c'est vrai que la caserne de la Benauge, c'est assez incroyable parce que c'est un endroit qui lui-même est absolument incroyable. Et pourtant, moi, j'entends tous les jours des gens dire, effectivement... qu'ils ont du mal avec... Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un mystère, cette caserne, parce que j'ai l'impression qu'elle laisse pas du tout indifférent. Il y a des gens qui vont l'adorer, qui vont la trouver absolument extraordinaire, qui vont se battre pour cette sauvegarde, et puis il y en a d'autres qui peuvent absolument pas la voir. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Alors peut-être que je me trompe, et peut-être que certains...
Non, je crois que c'est la vérité, oui, effectivement.
Mais il n'y a pas de juste milieu dans cette caserne. Alors je fais partie, effectivement, des gens qui la trouvent incroyable.
Mais oui, il vaut mieux. Pour travailler avec les ferrets, c'est préférable quand même, non ? Non, non.
Bon, encore que...
D'accord.
Voilà, mais c'est vrai que moi, c'est vraiment ce qui m'a étonné sur l'œuvre des ferrets, c'est à la fois cette capacité à construire dans le présent et en même temps cette volonté de construire pour les générations futures. C'était notamment un adage de Claude Ferret qui... lorsqu'il a reconstruit Royan, qui disait « Je ne construis pas pour vous, mais pour vos petits-enfants ». Et voilà, c'est ça, c'est vraiment cette espèce d'intemporalité, si je peux dire, et en même temps, très temporelle.
D'accord. Très bien. On reviendra, on reparlera de vous, et puis après, si effectivement la salle souhaite vous poser des questions, après qu'on ait un peu discuté tous les trois, donc Christian Salnave que je vais tutoyer, je ne vais pas faire semblant de te vouvoyer à la tribune. Donc ce livre paraît, c'est un gros pari éditorial, disons le mot aussi financier, c'est une petite maison d'édition, et donc c'est un pari que tu as fait avec ce livre. Donc comment s'est passée la rencontre avec Fico ? Effectivement, c'est peut-être bon de préciser que d'abord tu connaissais les Ferret, tu connais Pierre Ferret depuis longtemps. Tu vas nous dire si ça a eu une influence sur la façon d'éditer le livre, etc. Mais voilà, c'était aussi... tu connais l'architecture, évidemment. Tu as travaillé notamment à l'école d'architecture. Donc, comment toi, t'as germé l'idée ? Comment s'est réalisé le livre ?
Alors, j'avais trois paris à tenir et qui se conjuguaient. C'est une belle histoire que je vais vous raconter. Et j'espère qu'elle se terminera par des applaudissements. Vous allez vous comprendre pourquoi.
Il suffit de demander. Hein,
oui, voilà. La belle histoire, c'est la suivante. C'est que lorsque Philippe Combe me propose de travailler sur les ferrets, j'ai d'abord, d'une part, le souci de lui faire comprendre que je ne suis pas historien de l'architecture, ni historien de l'art. Même si j'ai beaucoup de culture en art, que je suis musicien, etc., etc., je ne suis pas historien de l'architecture, je ne suis pas architecte. Donc, je vais prendre le propos sous un autre angle. Et c'est en cela que je pense que ce livre apporte quelque chose. Il se conjugue avec un deuxième pari, c'est que l'architecture est un domaine souvent réservé du point de vue de la science et de la connaissance, et des arts, à savoir que entre les savants et les profanes, ceux qui l'habitent, qui l'utilisent, qui la contestent ou qui l'admirent, il y a un fossé de connaissances. Et moi, j'ai trouvé très riche et très prometteur, à propos des quatre ferrets, de pouvoir confronter justement l'appréciation, comment les gens avaient habité durant 110 ans, 1895-2012, plus de 110 ans d'architecture, quatre générations d'architectes, comment au fur et à mesure du siècle, des changements d'utilisation, des changements de panorama, d'environnement, comme tu l'as dit, mais aussi des changements de culture des gens qui l'habitent, comment la patrimonialisation de ces œuvres d'architecture, comment les gens se l'appropriaient, l'habitaient, les vivaient. Et en confrontant cela avec l'avis des spécialistes, que sont les historiens de l'art, les historiens de l'architecture, qui ont écrit sur les Ferré, mais qui ont écrit toujours sur l'histoire de l'architecture, là, je trouvais que ça apportait un point de vue, un troisième point de vue, celui des spécialistes, celui des habitants, et ça conjuguait, et ça donnait un troisième point de vue inédit. D'autant plus que le point de vue financier est intéressant. Parce que je n'ai pas fait appel à des subventions, je n'ai pas fait appel à des mécénats. J'ai fait acheter l'innovation culturelle que représentait ce livre à des institutions et à des compagnies qui disaient « Ok, on achète ce bouquin parce que c'est un pari éditorial, mais un pari scientifique. » Dernier point, le caractère pluridisciplinaire. Le travail d'archives que j'ai fait notamment avec une architecte qui est à la troisième rang ici, qui s'appelle Natalia Miteneva, que je veux saluer, ce travail d'archives qui est axé surtout sur Pierre Ferré 1879-1949, pour situer son œuvre, c'est 1895, diplôme de l'École des Beaux-Arts de Paris, et 1942, quand il cesse d'être patron, fondateur de l'École d'architecture de Bordeaux. Ça va être une dimension des Ferré indispensable. Pendant 77 ans, ils vont tenir, fonder, animer et être les patrons de multiples générations d'architectes dans l'école, dans la section d'architecture de l'École des Beaux-Arts, puis ensuite l'École d'architecture de Bordeaux, lorsque ça va être séparé les uns des autres.
Il faut préciser que c'est Claude Ferré qui a construit l'école absolument. D'architecture qu'on connaît actuellement.
Absolument. Et il a dirigé l'école d'architecture régionale d'architecture à partir de 1942. Son père a donc fondé en 1906, puis 1928 l'école régionale. Claude Ferré a pris la succession en 1942, a traversé les événements de 68. Il n'était pas un mandarin, mais c'était un patron apprécié de tous ses élèves architectes. Et il a même construit la nouvelle école d'architecture dans les années 1973, qu'il a dirigée jusqu'en 1977. Ensuite, Pierre Ferré, ici présent, était étudiant 68, 74, 75. Et ensuite, Vénétia Ferré, elle-même diplômée, 2004. Donc, vous voyez, nous courons sur 110 ans également d'enseignement d'architecture. L'intérêt, l'originalité de la chose venait du fait. Et cela, c'est pour ça que je m'amusais en disant que je vais vous faire applaudir très souvent durant mon allocution. C'est qu'il y a quelque chose d'exceptionnel dans ce livre. C'est le fait que Pierre Ferré et Vénétia Ferré, ici présents, pendant 2 ans, 18 mois d'écriture, 2 ans en tout du projet, n'ont jamais lu une ligne sur ce livre qui fait 192 pages. Et où il n'y a pas seulement des photos, il y a 400 références de témoignages d'habitants, de témoignages d'usagers, de témoignages et de points de vue de spécialistes, je vois dans la salle des historiens de l'architecture, 400 témoignages, autant de photos. Donc, c'est autant de gens que j'ai rencontrés ou dont j'ai lu les témoignages dans les archives et que j'ai confrontés aux images de l'architecture que les Ferré nous ont offert pendant 110 ans. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Et après, on va rentrer dans les détails, mais je te laisserai la parole après. Qu'est-ce que j'ai découvert? C'est qu'en fait, l'architecture, telle qu'elle est représentée dans les cerveaux, dans les têtes, dans les yeux, telle qu'elle est photographiée dans les œuvres des photographes, telle qu'elle est peinte parfois, comme elle est, comme elle prétend, et comme elle veut être conçue. Elle est représentée comme elle est conçue par l'artiste, par l'architecte. Si on la confronte à comment elle est habitée, vécue, quand elle devient un patrimoine approprié. J'ai des gens que j'ai interviewés qui habitent les maisons de l'arrière-grand-père, construit en 1910, et nous sommes en 2012, et la maison en question, rue Carnot, ou d'autres, dans Bordeaux, tiennent la gageure d'avoir 110 ans de vie qui résiste au changement de mode. C'est une extraordinaire réussite de ce point de vue-là. Or, cette conjugaison, cette confrontation entre l'utilisation d'un patrimoine et l'image d'une architecture inaugure des critères de perception et des critères d'appréciation qui font que, comme dans toute traduction, quand tu as un roman français que tu traduis en anglais, tout le monde sait que l'auteur anglais, c'est une véritable recréation. Quand l'architecture construite par les Ferré est habitée, représentée, vécue, imaginée, fantasmée par ceux qui l'habitent, ceux qui la croisent, ceux qui la visitent, et que, de ce point de vue-là, elle n'est plus seulement une œuvre, mais elle fait œuvre. Là s'ouvre et s'inaugure un point de vue scientifique qui mérite d'être non seulement écouté, mais surtout pris en compte dans les politiques urbaines, parce que c'est exactement comme ça que se vivent nos agora actuelles. Et je dis, j'emploie le mot d'agora à dessein, puisqu'on a une magnifique manifestation politico-architecturale tous les deux ans, hein, qui s'appelle l'agora.
Absolument, qui aura lieu en septembre cette année.
Voilà, et dont le titre est quoi ? Enfin, esquissé en tout cas, architecture et patrimoine. Je trouve que ce livre en est le plus merveilleux des cartes de visite et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher dans des bataillons disciplinaires ou des références nationales centralisées. On n'a pas besoin d'aller chercher des références que les Ferré, entre guillemets, nous ont esquissées 80 ans, 50 ans ou 10 ans à l'avance. Et qu'il serait temps de rendre, non pas à César ce qui lui appartient, mais aux Bordelais ce qu'il nous apporte. C'est pourquoi je voudrais juste terminer ce premier point de vue, vraiment, et j'y tiens beaucoup, c'est que c'est pas facile que d'avoir des faux biographes, parce que ce n'était pas une biographie. Et ils le savaient, les deux, le père et la fille. Je ne parlais pas de leur vie privée, je n'allais pas prendre une caméra cachée et sur leur balcon, non, rien de tout cela. J'allais mettre en perspective 110 ans d'architecture, mais surtout les confronter avec leurs habitants. Et ça, sans qu'ils le sachent, moi, j'applaudis encore.
Alors, on va applaudir effectivement comme ça.
Merci à vous deux. Et bravo.
Cela dit, je connais moins Vénézia Ferré, mais je connais un peu Pierre Ferré. Je ne suis pas certain qu'il aurait vraiment apprécié que ce livre soit une biographie, comme tu dis, parlant de la vie privée des Ferré. C'est quand même des gens qui sont plutôt, qui se consacrent plutôt à leur travail, qui ont envie que...
Je suis d'accord, mais même pas une monographie.
Non, mais d'accord.
Même pas une monographie. C'est-à-dire, ce n'est pas un livre de... Sans faire un mauvais jeu de mots, hein, ce n'est pas un livre de com'. Si je puis m'exprimer ainsi, il appréciera. Mais il s'appelle mon cher Philippe. Ce n'est pas un livre de com', ce n'est pas un livre de promo. C'est un livre qu'ils ont découvert et c'est un livre que chacun peut s'approprier.
Pardon, je reviens vers vous, Philippe. Comme c'est pareil pour les photos. Vous avez pu travailler en totale liberté, notamment quand il s'agissait des œuvres de Pierre et Vénézia Ferré. Généralement, les architectes sont très soucieux qu'on présente leur travail sous le meilleur angle, qu'on ne monte pas les... Là, il n'y a pas eu de directive
Non. Alors, tout le travail de ce... Il y a une partie des photographies qui était réalisée avant que se décidait la mise en place de ce bouquin, qui était réalisée par commande de Pierre Ferré. Par contre, toute la sélection, tout le travail de sélection des images, effectivement, a été fait, encore une fois... sous notre propre jugement et notre propre sélection.
D'accord. Alors, Christian, c'est un livre, on l'a compris, qui a demandé beaucoup de temps, quand même. C'est un livre qui a nécessité un investissement à tous les sens du mot. Oui. Un investissement pour toi, parce que, on l'a dit, c'est un pari, c'est la première fois que tu fais un livre de cette taille, voilà, ce qu'on appelle, qu'on range dans, entre guillemets, dans les beaux livres, c'est-à-dire avec le prix qui, évidemment, s'en ressent, mais bon, il faut... chaque chose a son prix, mais surtout un travail de documentation, oui. De sélection des photographies, oui. de Philippe Combes. Voilà, ça a été un long travail.
Un long travail. Alors, il ne faut pas oublier, moi j'aime bien inciter les gens, parce que c'est pas, justement, ce travail d'éditeur n'est
oui,
pas
oui,
un
tu,
travail.
Oui, tu as raison, j'ai oublié citer. De citer non. Natalia.
Oui, oui, tout à fait, mais citer aussi les fonds d'archives qui se sont ouverts, bon, les archives personnelles de Pierre, mais également les archives de l'école d'architecture de Bordeaux, le fonds Ferré, qui est un fonds scientifiquement traité par les historiens de l'art et de l'architecture, je vois un éminent représentant, Antonio Buccoleri, au fond de la salle, un enseignant d'école d'archi, mais il y a également les archives municipales, les archives régionales. Avant, c'était la DRAC, maintenant c'est la région, pour une question politique, budgétaire, c'est la région qui en est le dépositaire, et le fonds de la bibliothèque municipale. Bon, c'est un énorme travail de description, d'analyse, mais de confrontation et de conjugaison avec l'écriture. Parce que rien ne peut, dans ce parti pris, entendons-nous bien, rien ne peut être extrait l'un de l'autre. L'écriture et l'image sont consubstantiellement fécondées, l'une par l'autre. Donc, et c'est en cela que ça apporte un regard et un point de vue totalement différent. Je prends un exemple, je prends deux exemples. L'arrière-grand-père, Pierre Ferré, quand vous lisez les bouquins sur l'histoire de l'architecture de cette époque-là, tous les gens disent, bon, c'est Paris, Paris, 1925, l'exposition d'art déco, etc., etc., 1931, l'exposition coloniale. On découvre, si on travaille dans les archives, on découvre que l'arrière-grand-père, non seulement avait inauguré et financé et animé des associations d'artistes. Il était un architecte qui faisait appel aux meilleurs artistes de toutes sortes, de toutes disciplines, premièrement, bien avant que les Parisiens se réunissent. Deuxièmement, que la première exposition coloniale, c'est 1907, dont l'architecte en chef était son patron de l'époque, l'arrière-grand-père, et il avait participé également. Et la première exposition coloniale à Paris ne sera qu'en 1931. Donc, d'une part, on voit l'importance de villes comme Bordeaux, Lyon, Marseille par rapport à Paris, avant que Paris n'impose sa figure de capitale mondiale des arts. Bien. Deuxièmement, quand on voit la capacité qu'avait l'arrière-grand-père de conjuguer art nouveau, art déco, et là, il y a une magnifique photo d'archives et de photos de Philippe Combes, art nouveau, art déco, art moderne, sur 1910-1940, sur 30 ans d'œuvre, il arrive à concilier ce que l'histoire de l'art, ses vertus, a opposé et à rendre incompatible. Donc il y a là quelque chose d'innovation qui nous prouve que l'on peut vivre en fonction de ce qu'il disait pour ses étudiants, en fonction de faire chanter l'architecture, comme le disait Paul Valéry, 1921, l'écriture du bouquin, ce qui prouve que Pierre Ferré lisait des bouquins, ce que ne font pas toujours les architectes ces temps-ci, lui il en lisait, le 1921, mais surtout que l'arrière-grand-père arrivait à nous faire vivre dans des atmosphères, des patrimoines exceptionnels, sans en être pour autant reconnu comme le promoteur au niveau national. Deuxièmement, deuxième exemple, Claude Ferré, 38 ans, jeune patron de l'école d'architecture, qui ne s'appelle pas encore comme ça, section d'architecture de l'école des Beaux-Arts de Bordeaux, nommé architecte et urbaniste en chef de la reconstruction de Royan. 50 ans plus tard, les meilleurs livres d'architecture, d'histoire d'architecture que je connaisse, auxquels je me réfère en permanence, je peux les citer, François Loyer, Gilles Rago, ce sont des auteurs incontestables et incontestés. Mais pris dans la logique de leur discipline, ils ne comprennent pas disciplinairement pourquoi Claude Ferré a été choisi par le ministre de l'époque, Raoul Dautry, en 1945, alors qu'il a 38 ans, qu'il est jeune prof, patron d'une école modeste par rapport à l'École nationale des Beaux-Arts, et qu'il n'a pas construit d'œuvres majeures. Et si on s'en tient à ce répertoire d'histoire disciplinaire, à ce bataillon disciplinaire de connaissances artistiques. On ne comprend pas. Et on dit, mais comment ça se fait? Il fait pâle figure, dit-on, dans les livres d'architecture. Il faisait pâle figure par rapport à Le Corbusier, qu'on avait sollicité pour La Rochelle et qu'on avait sollicité pour Saint-Dié, et les deux, il s'y est cassé les dents et il a été récusé par les habitants. Ou par rapport à notre ami, le grand architecte qui était le président du Conseil de l'Ordre en 1940 et qui a reconstruit le Havre, les frères Perret, Auguste Perret. Bien, il ne faisait pas le figure. Alors comment peut-on l'expliquer? Mais on ne peut pas l'expliquer par l'histoire de l'art seulement. Il faut rentrer dans les témoignages, dans le travail d'archives et découvrir à ce moment-là que le choix d'un Claude Ferré va se faire aussi sur une option politico-artistique, à savoir que le ministre résistant, nous sommes en 45, va choisir des architectes qui avaient, pour certains, collaboré et pour d'autres, résisté. Et Claude Ferré était un résistant. Et il a fallu que moi, je puisse être sollicité pour faire une exposition qui ne s'est jamais faite sur l'œuvre de Claude Ferré, 30 ans plus tard, et que je puisse demander, parce que les archives en matière de résistance sont moins, évidemment, moins étalées que les diplômes. Donc, il a fallu que j'aille voir Jacques Chaban-Delmas à deux reprises, sur 5 ans d'écart, en tête à tête, et en présence de son directeur de cabinet, qui m'a peut-être donné ainsi, pour lui demander 2 fois de suite, est-ce que vous confirmez, monsieur le président, monsieur le maire, est-ce que vous confirmez que Claude Ferré a effectivement été un membre important de réseau de résistance? Oui, il a fait sa part de travail. Mmh. Claude Ferré, que j'avais interviewé du temps qu'il vivait, n'avait jamais dit, mais il m'avait dit, vous êtes un chercheur, vous êtes un journaliste, débrouillez-vous, faites votre métier. Donc il a tenu. Il était un peu le monsieur Noël, vous voyez, hein, du film, avant que d'autres prennent les rôles. Ce Claude Ferré-là, donc, qui nous éclaire une personnalité, mais aussi des choix. Parce que reconstruire une ville dont le centre était totalement détruit, à 38 ans, c'est quand même un sacré pari, va éclairer aussi sa manière de reconstruire Royan, avec toute une équipe d'architectes avec qui il va laisser la liberté, sans perdre l'exigence de son regard, mais aussi, et c'est là qu'on recoupe l'expression de Philippe Combe, en disant aux habitants qui s'impatientaient, ils étaient sous les tentes, ils étaient dans la pénurie, ils étaient dans la précarité des bâtiments qui ne se construisaient pas. 45, une ville détruite, hein, Royan n'était pas la première des priorités du point de vue des villes à reconstruire. Il leur disait, je ne reconstruis pas seulement pour vous, je reconstruis pour vos petits-enfants. Il a fait la même chose ensuite à la caserne des pompiers. Donner aux soldats du feu à Bordeaux, le long de la Garonne, avec l'accord de Chaban-Delmas, contre l'avis de beaucoup de Bordelais, donner aux soldats du feu, qui ne sont pas des Ferrari, leur donner le plus belle vue sur Bordeaux, patrimonial du 18e et du 19e siècle, c'était quand même un sacré pari d'architecture pour tous. Et si on continue qu'on remonte ainsi, découvrir chez Pierre Ferré aujourd'hui, qui se bat depuis 20 ans, je travaille pour lui, sur lui ou avec lui, comme avec tant d'autres architectes que je regarde en tant que sociologue, qui se bat depuis 20 ans ou 25 ans. La mondialisation est passée par là, la spécialisation est passée par là, et qu'il maintient lui aussi, de la même façon que son père et que son grand-père, cette option architecturale d'une architecture pour tous, toujours pour tous. C'est-à-dire que quand il fait des maisons individuelles, il n'impose jamais. La maison, vous savez, on n'habite pas la maison de Coulas. On habite sa propre maison, faite par un architecte. Il y a là une courtoisie, une exigence, une politesse et une élégance qui n'excluent rien à la compétence. Mais il faut la ramener sur la table d'examen de l'histoire de l'art. Et ce n'est pas souvent fait.
Alors, ce qui peut...
Je n'ai pas fini, il me reste, hein, je viens un paragraphe, mais ça viendra.
Attends, on va en revenir après. Voilà. Non, ce que je voudrais qu'on dise aussi sur les Ferré, tu l'as évoqué avec donc, l'arrière-grand-père Pierre, le grand-père Claude. On parle par rapport, évidemment, à la génération vénézienne, je le précise. Tu l'as bien dit, c'était des enseignants, c'était des pédagogues. Oui, donc, par contre, est-ce qu'on peut considérer, peut-être Pierre Ferret nous le dira, que je ne vais pas dire le fil s'est rompu, mais c'est vrai que Pierre Ferret n'a pas eu cette vocation, peut-être, d'enseignant ou de directeur d'école. Est-ce qu'on peut dire, quand on dit que Bordeaux est un vivier d'architectes connus maintenant, qui font des œuvres, pas seulement à Bordeaux, mais à Paris, ailleurs dans le reste de la France, voire à l'étranger, est-ce qu'on peut dire que les Ferré, Pierre et Claude, ont donné naissance à ce qu'on pourrait appeler une école bordelaise de l'architecture? Est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que c'est vraiment ça aussi, en dehors de leur œuvre propre? Est-ce qu'ils ont créé, j'allais dire, une façon de travailler bordelaise pour l'architecture?
Alors, ma réponse, justement, puisque j'ai beaucoup travaillé, je travaille toujours, hein, à l'école d'archi. Je suis enseignant, donc enseignant-chercheur dans l'école d'archi sur la sociologie de l'espace habité. Bien. Le terme école bordelaise est déjà connoté, hein. Moi, je dis, ils ont apporté, ils ont initié, et je vais te le décliner en 3 minutes, c'est difficile de synthétiser
sans architecture,
mais on va y
arriver.
Il faut que j'y arrive. En 3 minutes, donc, ils ont décliné et inauguré une pédagogie, j'explique. Vous écoutez, vous regardez, vous lisez. J'ai écouté des émissions de radio, j'ai relu des extraits de textes de l'arrière-grand-père, du grand-père, du père, et le témoignage de la fille, sur l'enseignement. Quand vous voyez, l'arrière-grand-père exige que ce soit des vrais architectes, c'est-à-dire des diplômés, que ce soit des architectes qui s'y connaissent en histoire, mais qui ne répètent pas à satiété les mêmes modèles, et qui sachent concilier l'innovation et la tradition, et qui sachent concilier leur création avec le goût de leurs habitants. C'est pas simple. Et il inaugurait quelque chose qui reviendra et qui revient sans cesse dans la problématique de l'enseignement de la pédagogie. Et ça, c'était en 1924 et 1937. J'ai les textes. Ensuite, Claude Ferré, quand il prend la direction et qu'il débouche, donc c'est le patron, puis ensuite il va déboucher et le regard immédiatement 68. 68, donc c'est la grande rupture, mai 68, etc. Et l'école d'architecture naît parce qu'elle est séparée de l'école des Beaux-Arts par un décret d'André Malraux. Bien. Ce sont les unités pédagogiques d'architecture. Claude Ferré fait partie de ces rares, il y en a d'autres, 2 ou 3 autres, mais fait partie de ces rares patrons. J'en connais des générations, 2 ou 3 générations, qui parlent toujours du patron. Fait partie de ces patrons qui ne sont pas des mandarins. C'est-à-dire, et le deuxième aspect de la pédagogie, il opte, encourage en permanence chez l'étudiante ou chez l'étudiant le futur architecte qu'il doit devenir et qu'il peut devenir. Il l'encourage, il joue ça. Alors que, à partir de 68, il va diriger l'école d'archi, être le patron toujours jusqu'en 77, il y a une inédite emprise des sciences humaines, géographes, sociologues, etc., et qui arrive avec d'autres a priori disciplinaire. Pierre Ferré est en plein, donc, 68, 74, il est en pleine ébullition dans ces problématiques-là. Qu'est-ce qu'il constate? Qu'est-ce que je constate pour lui, dans le bouquin? Je suis à peu près de sa génération, mais je ne suis pas architecte du tout. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que les leaders contestataires, qui ont nom, nouvelles, pour en part, des gens comme ça, qui vont devenir, dans les 10 ans, 78 c'est fait, 81 c'est sanctifié, ils vont devenir les nouveaux chefs de file et de vrais mandarins sous une autre figure. Mmh. Ils vont remporter les grands travaux de Mitterrand, du président Mitterrand. Il suffit de les... À quoi se confronte Pierre Ferré dans la pédagogie? Il se confronte à la pluridisciplinarité à laquelle, plusieurs disciplines, à laquelle l'architecture va répondre dans la pédagogie par la transdisciplinarité. L'architecture traverse les disciplines et s'en sert. Quelle va être sa réponse dans cette problématique pédagogique en tant qu'architecte? Il va dire, moi, j'utilise au mieux et au plus le tout de chaque discipline. C'est-à-dire, jamais, jamais, il ne va être comme le pan. Il sera aussi modeste que souverain. C'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à la fois souverains et modestes, du point de vue professionnel. Je peux vous garantir, j'ai fait beaucoup de métiers, j'ai travaillé sur beaucoup de métiers de profession libérale. Les gens qui sont modestes oublient d'être compétents, les gens, parce qu'ils sont complètement submergés, les gens qui sont souverains oublient d'être pluridisciplinaires. Arriver à conjuguer les deux, ça mériterait presque encore une salve d'applaudissements. Je vais finir par la jeune femme.
Mais comme il est modeste, oui, tu vas le gêner. Vais,
voilà, donc, mais ça sera souverain, donc ouais, c'est moi le souverain. Et la dernière, Venezia, les années 2000. À quoi s'expose l'architecture? À quoi elle est exposée? De mai 2000, 1999, on appelle ça le protocole de Bologne. Qu'est-ce qui se passe? Les étudiants en architecture, jusqu'alors, ils avaient Bac plus 5, pour aller vite, hein, pour aller vite. Bac plus 5, vous mesurez, les médecins ont Bac plus 8, Bac plus 9, Bac plus 10, ils sont spécialistes. Les thésards, sociologues ou autres, professeurs d'histoire, de l'architecture dans les écoles, ont Bac plus 8, ils sont thésards, Bac plus 9. Les architectes ont Bac plus 5. Déjà, là, bon, ça en dit long. Le protocole de Bologne institue, dans la mondialisation, le fameux LMD, licence, master, doctorat, LMD, Bac plus 8. Tous les architectes ne sont pas obligés de faire du tout le doctorat pour avoir un diplôme d'État. Aujourd'hui, ils sont obligés d'avoir, ça ne s'appelle pas comme ça, ça a été revendiqué pendant 40 ans, depuis 1951, une licence d'exercice, c'est-à-dire une année de plus. Et on appelle ça aujourd'hui une habilitation à la maîtrise d'œuvre au nom personnel, hein, HMOMP, bon, peu importe. Donc une année de plus. Mais ils en sont, du point de vue universitaire, regardés par les disciplines concurrentes, satellites, les disciplines nourricières, comme on les appelle, ils sont regardés comme des Bac plus 5 ou Bac plus 6. Comment réagit, elle n'est pas la seule, mais comment elle réagit, Venezia Ferré, par rapport à cette problématique, qui a envie de construire, qui a envie de travailler comme architecte et pas envie de faire une thèse. Elle a bien le droit, ma foi. Mais elle n'ignore pas. Et c'est là que c'est un enjeu stratégique pour la nouvelle génération des architectes. Ils vont en faire de plus en plus des thèses. Son père le lui dit, il me l'a dit en tout cas. Il faut que les architectes fassent des thèses. C'est un renforcement de leur position par rapport à la problématique pluridisciplinaire que représente ce métier-là, qui ont des ingénieurs, qui ont beaucoup de choses. Comment elle réagit? Elle réagit que, et elle le dit partout, à chaque fois qu'elle peut l'exprimer. Parce que maintenant, il y a quand même de plus en plus de femmes, il faut bien dire. Pas encore patronne, hein, pas encore prof, c'est encore minoritaire, les femmes dans l'architecture, dans ce métier d'homme. Mais quand même, de plus en plus nombreuses. Et du point de vue étudiante, elles sont à la parité. Et elles ont, comme souvent, les meilleures notes, il hein, faut bien le dire. En tant que prof, on le sait. Bien, ceci étant dit, comment elle réagit? Elle réagit en disant, la recherche, c'est-à-dire le doctorat, la recherche est le moteur de mon projet. C'est-à-dire qu'elle se l'approprie et elle hausse le niveau d'exigence. Donc la pédagogie Ferré, loin de faire une école de Bordeaux qui veut dire c'est pas Paris, c'est pas Belleville, c'est pas la Villette, c'est pas l'école spéciale d'architecture, c'est l'école de Bordeaux. Non, c'est une pédagogie où la modestie et la souveraineté de l'architecte, je pèse les mots, hein, modestie et souveraineté de l'architecte, se concilie et se conjugue avec une architecture pour tous. Ça, c'est une image. Ça, c'est une compétence. Et ça, c'est un pied formidable quand on traverse et qu'on vit dans leur architecture.
Alors, sans se lancer dans un débat trop long, parce que de toute façon, ce n'est pas ici qu'on va résoudre la question. Non, mais voilà, quand tu dis qu'il faut qu'elle fasse des thèses... Moi, je te pose la question comme le pauvre Kidam, qui est un peu profane, comme tu l'as dit au début. Il me semble qu'un architecte, il vaut mieux qu'il fasse des bâtiments donc, que des thèses. C'est peut-être alors, plus comme ça qu'on apprend son métier.
Je t'explique que...
Il me semble que moi, pour ce qui est du journalisme, il me semble qu'on apprend le journalisme en faisant des articles et pas en faisant des thèses.
Oui, mais tu as fait des études aussi.
Oui.
Tu es discret, toi aussi, t'es modeste. Je connais mieux ton CV que toi, que tu ne le dis. On en parlera
si
une autre
fois. Si
tu savais. Oui, je sais. Mais juste la chose, c'est que la thèse, c'est pas la thèse qui est importante. C'est que dans la thèse, dans la recherche, on a une méthode de travail, la recherche de la problématique, le traitement des informations, la recherche des archives ou quoi que ce soit, qui peut être extrêmement fécond pour le travail et la pédagogie et la pratique du projet. Et qu'il faut que le projet ne perde pas son temps avec des informations pour savoir l'utilisation de la virgule chez Proust. Un exemple fameux d'une problématique de thèse, l'utilisation de la virgule chez Proust. Bon, il y a des gens qui passent 15 ans de leur vie à travailler ça. Ça, ça n'a aucun intérêt, on est d'accord, que pour l'académisme. Mais la sélection, la recherche d'informations, et non pas la précipitation dans le projet. Ça peut nous rapporter des bâtiments où l'on est heureux d'y vivre, les profanes. Je suis un profane. Et je suis heureux de vivre dans l'architecture ou dans des agoras où je suis bien, où je peux m'approprier, où je peux réécrire mon histoire et où je n'habite pas du coulas ou du nouvelle. Non, j'habite chez moi, même si c'est une nouvelle qui l'a fait. Ça, c'est particulier. Et cette articulation-là mérite un coup de chapeau, mais surtout mérite une légitimation scientifique pour les étudiants.
Ce qu'on retient de ton livre, tu vas nous le dire, finalement, à l'arrivée de ce livre donc, fait à trois, Natalia, Philippe Combe et toi, est-ce que on arrive, comme tu dis, est-ce que les gens sont heureux de vivre dans du Ferré? Enfin, même si c'est pas du Ferré, si c'est chez eux, mais est-ce que je pose la question brutalement, mais est-ce que les bâtiments, les maisons des Ferrets ont bien franchi le temps?
D'une part, ils sont heureux de lire le livre, un témoignage, et ils sont heureux d'y avoir vécu chez les Ferrets, à différents endroits. Spécifiquement, attention, on ne vit pas Royan comme on vit un stade.
Oui, bien sûr.
Évidemment. On ne vit pas la dernière maison de Venezia. Alors c'est très intéressant ce détail, c'est un détail, mais significatif. Le père de Pierre, Claude Ferré, a fait la maison pour un de ses amis toubib. Pierre Ferré a fait la maison pour le fils de ce toubib. Et Vénétien Ferré fait la maison pour la... Voilà. Ça prouve déjà, bon, c'est pas seulement une fidélité. Hein. Quand on aime vivre dans une maison, c'est pas seulement par fidélité. Voilà, on aime y vivre. Bien, ça c'est une preuve. La deuxième preuve, c'est que moi, quand je demande à des joueurs de foot de Clairefontaine, quand je demande à des praticiens du dojo de Lormont, quand je demande à des praticiens de petites structures sportives, qui n'ont pas le médiatique aura, l'immédiatique aura des grands stades, qu'il fait aussi, comme à Lille. Bon. Mais quand je demande aux gens comme ça, qui n'ont pas de pognon, pour aller regarder jouer Ribéry qui tape sur la tête de Gourcuff, mais qui joue comme ça, ça me rappelle la même saveur que nous avions en commun avec Pierre. C'est lui qui m'a montré ce bouquin. C'est un livre d'un photographe. Des années, je ne sais plus, 40-50, tu te souviendras du nom, moi je ne m'en souviens plus. Et ce photographe avait fait une photo, stade de foot, les 11 joueurs saluent la foule, les 11 autres alignés, tous saluent la foule, et la foule, c'est 15 personnes. Là, ça, il faut comprendre comment fonctionne aussi une foule, mais aussi des admirateurs, mais aussi des amoureux du sport, sans que ça soit des milliards de dollars. Mais là, au plus intime et au plus des modestes, réussir un tel équipement sportif, quel qu'en soit le budget, et que les gens s'y sentent bien et y vivent et y soient heureux, ils savent le champagne ou l'eau de Vichy offert par Mola, des viands, eh bien, je trouve que c'est le plus beau des saluts qu'on puisse donner à une architecture. Même si ça ne rentre pas dans la nomenclature des œuvres dites singulières des artistes, alors qu'ils oublient toujours qu'ils l'ont faite au pluriel. Et que la particularité de ces œuvres-là, et ça c'est typiquement de Ferré, des Ferré, chacun à sa manière, c'est qu'ils font une œuvre plurielle, ils le reconnaissent, et ils la signent toujours au singulier. Et là, moi, j'applaudis encore.
Non.
Voilà.
Philippe Combe, après ce tourbillon de Christian Salnave, c'est formidable, on l'écouterait pendant des heures, mais c'est bon d'avoir des gens qui sont passionnés par leur sujet. Vous aussi, vous avez ressenti, justement, quand vous alliez photographier, cette façon que les gens avaient de se sentir bien quoi dans ces bâtiments, ça se ressent quand on est photographe. De toute façon, bon, quand on est photographe, on parle aussi avec les gens, on se contente pas de faire des photos, on parle aussi, on fait une sorte de mise en scène. Vous aussi, donc de façon plus prosaïque que Christian,
j'étais très
pratique. oui, forcément. Alors à double titre, à la fois. Lorsque je photographiais le centre technique du rugby de Marcoussis, c'était intéressant parce que j'y suis allé un jour où l'équipe de France était in situ et donc j'ai pu discuter avec eux. Et voilà, de fait, effectivement, ils pratiquent les bâtiments, ils s'y sentent bien. Clairefontaine, effectivement, parce que j'avais travaillé là-dessus, pareil. Là, oui, c'est des objets qui marchent, qui sont à la fois beaux et
fonctionnels.
Il y a vraiment cette double fonction dans cette architecture, à la fois une architecture créée, une architecture usuelle. Et je l'ai aussi ressenti, et ça, c'était presque encore plus intéressant. On parlait tout à l'heure de Claude Ferré, parce que j'ai travaillé sur la caserne de la Bonneuge. Il est question que les pompiers déménagent aillent du côté de Florac. Et là, j'ai vraiment senti des gens qui avaient conscience de... Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient, là où ils allaient partir, mais par contre, ils savaient pertinemment ce qu'ils allaient perdre. Et c'était étonnant de voir... il n'en reste plus beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de vacances dans cette caserne, pour diverses raisons. Mais c'était intéressant et émouvant de voir ces pompiers, dont certains qui habitent là depuis 30 ans, 40 ans, qui ont vraiment conscience qu'ils vont partir dans quelques années et qui vivent ça presque comme un déracinement. Mmh. Et bon, donc oui, à double titre. Et c'est vrai que pour en revenir, pour arriver plutôt à la première génération, j'ai photographié effectivement une maison notamment qui est habitée. Et la personne est vraiment attachée. Elle n'est pas arrivée dans cette maison-là par hasard. Il se trouve qu'elle a un jour acheté cette maison, sachant pertinemment ce qu'elle a acheté, qui l'avait fait, et c'était vraiment un objet de fierté.
Mmh, oui, tout à fait. D'accord.
Donc, voilà.
Bon, je vois que ça fait presque une heure qu'on parle. Oui. Peut-être on pourrait introduire un débat avec la salle s'il y a des questions. J'ai quand même envie de demander, Pierre, ça serait bien que vous disiez, vous... si ce livre a provoqué chez vous quand même une émotion, quand même, c'est pas évident quand on s'appelle Ferré d'avoir un livre qui est consacré à sa famille, même si on l'a dit, c'est pas une biographie, mais est-ce que vous avez appris des choses en lisant ce livre ? Alors, donc, comme le rappelait brillamment Christian et à plusieurs reprises, que vous avez découvert une fois qu'il était, une fois qu'il a été édité, vous n'avez absolument pas. Eu le droit ou le loisir de parcourir le livre avant, de dire ça, j'aimerais que tu n'en parles pas, ou etc.
Je suis en train de chercher des trucs que j'ai fait où les gens râlent quand même. Pour
oui.
Alors il y a chez moi ma femme, parce qu'il y a trop d'escaliers. Il y a ma voisine là qui râle parce que j'ai fait sa maison il y a longtemps, mais il y a aussi trop de marches. Non, mais je trouve. Bon, j'ai rien à redire à ce qui a été dit, puisque bah, ça c'est difficile d'ailleurs. Mais. Bon, enfin, je ne voudrais pas jeter de fleurs, ça ne sert à rien, quoi. Mais je trouve que c'est. Déjà, le fait de faire un livre sur les Ferré, ça fait plaisir, donc on ne va pas discuter de ça. Mais. Encore ce soir, j'apprends des trucs. Donc, ce que je trouve intéressant, vraiment, c'est que moi, j'ai appris des choses. Bon.
Ouais.
Donc, déjà, ne serait-ce que pour ça, bon. Alors peut-être que ça me touche même plus moi que d'autres. Des fois, je me dis, tout le monde s'en fout des Ferré, quoi. Donc, pourquoi il fait ce livre ? Je lui ai dit, d'ailleurs. Je lui ai dit, justement, je ne suis pas nouvelle. Ni... Là, pour faire une petite critique, je ne suis pas convaincu que les maisons de nouvelles ou de coulas ne soient pas habitables. Donc,
Non, c'est pas c'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit ça.
J'ai compris. Tu dis, on est dans la maison, bon, mais bon, j'ai des amis au bec qui disent, ah, j'ai une maison ferrée.
Absolument.
Il fait froid, machin, enfin, je sais. Donc, parce que le chauffage est par le sol. Mon beau-frère, tiens, il était pas parce que le jour où le plombier a fait le chauffage, il y avait le Tour de France, donc il a raté. Enfin, bref. Non, je suis content, j'ai vu, je sais pas s'il est encore là. Quand même pour imager Serge Balabriga qui est là.
Oui.
Je suis assez bien. Ce que tu dis, je voulais donner deux exemples. Claude Ferré, une de ses fiertés, c'était souvent de dire que la ville de Royan, c'est la première ville en France. Quand elle a été construite, elle avait le plus. Quand elle a été reconstruite, elle avait le linéaire de tout à l'égout le plus important des villes françaises. Donc ça éclaire ce que tu veux dire. Il n'y a pas, comme beaucoup le croient, que la façade ou la décoration, cette architecture, c'est aussi la fonction, et d'ailleurs l'architecture dite du mouvement moderne, et comme on dit, très fonctionnaliste tout en étant, je le dis parce que ce n'est pas flagrant, ça c'est une chose, et pour ce qui me concerne, tout à l'heure Benoît a posé une question en disant comment ça s'est passé, comment vous avez fait, comment vous avez choisi. Bon, Christian m'avait dit de faire quand même une liste entre les projets...
Affectif.
Les projets affectifs et les projets comme, on va dire. Bon, alors évidemment, sauf que ça se recoupe beaucoup, quoi. Clairefontaine que j'ai fait, ou Marcoussis, ou le Stade de Lille, ou le centre d'entraînement du PSG, ou celui de l'OM, ou... Bon, tout ça, c'est autant affectif, c'est devenu, quand ça l'était pas au départ, ça l'est devenu. Mais il y a aussi, c'est vrai, des projets... je suis très fier d'un des premiers projets que j'ai fait, qui est une petite maison au Pays Basque, à Bidaraï. Et Barberaena, c'est en haut de Bidaraï, pour ceux qui connaissent, en haut. Je suis très fier d'un monsieur qui est dans la salle, qui s'appelle Serge Balabriga, qui a été président de l'atelier d'habitants de Bacalan, parce que pendant 10 ans, Chaban Delmas m'avait demandé de faire de la vraie, j'allais dire, démocratie, en tout cas de la vraie participation, c'est-à-dire que pendant 10 ans ou 8 ans, j'ai été à Bacalan, à Claveau, pour écouter les habitants à la cité Claveau, un jour, voilà, une des premières assemblées générales, il y a quelques... Bon, bien sûr, les habitants, ils sont toujours... Ils râlent. Alors là, pour y en avoir qui râlent, il y en avait quand même. Hein, donc, et je me suis fait engueuler plusieurs fois quand même. Et un des premiers qui avait levé le doigt en disant « Je veux bien être président de l'association », il est là, 25 ou 30 ans après. Et une de mes fiertés, c'était qu'il a été, pas à ce titre, mais il est devenu, après, conseiller municipal à Bordeaux, par ce biais de la concertation, de la participation. À Bacalan, c'était des logements HLM. Je me suis battu pendant 2 ou 3 ans pour expliquer à l'office HLM qu'il était absolument intolérable que des gens qui sont en file d'attente pendant 2 ans, donc on connaît qu'on réhabilite leur logement, on peut tant qu'à faire leur faire choisir s'ils préfèrent une douche qu'une baignoire, par exemple. Ou voir la couleur du papier peint de la chambre des enfants. Donc ça, croyez-moi, ça a mis du temps. Et effectivement, là où je crois que Christian a bien compris, pour moi, ça, c'est aussi important que la qualité esthétique d'une façade. Je dirais même que c'est beaucoup plus important parce que l'architecture qui chante, comme disait Valérie, que j'ai aussi lu, mais ça, c'est parce que mon père m'avait dit qu'il faut lire ça, ce que j'ai aussi lu, elle transpire ce qu'il y a dedans, quoi. J'ai été une de mes fiertés, c'est la rénovation du Stadium de Toulouse aussi, hein, puisqu'on parle du cœur, hein, où Daniel Herrero m'avait dit, je suis content avec son accent, parce que là, toi, tu sais ce que c'est l'âme de l'Ovalie. Il ne m'a pas dit, c'est beau, c'est tout, il m'a dit, tu sais ce que c'est l'âme de l'Ovalie. Voilà, ça, c'est... Quand on vous dit ça, ça fait plaisir.
C'est sûr. D'accord. Peut-être Venezia Ferré, ce serait intéressant, vous, donc vous êtes là. Pour le moment, la dernière représentante de la famille Ferré. Est-ce que ce livre vous a fait prendre conscience un peu que vous étiez l'héritière comme ça d'une dynastie où déjà dans la famille, on vous fait comprendre par votre père, voire votre grand-père, que vous êtes une Ferré, qu'il y a une histoire à porter ou comment c'est ce livre. Comment est-ce que vous l'avez lu vous
Bon, alors donc effectivement, je suis la dernière. Donc j'ai été diplômée il y a 5 ans, donc j'ai toute petite expérience par rapport à mes ancêtres, on va dire. Ceci dit, j'ai pas attendu le bouquin pour me rendre compte que être une ferrée, c'était pas juste être archi d'une première génération. Moi, j'ai étudié à Bordeaux, donc on parlait de l'école d'architecture de Bordeaux. Bon, Claude Ferré, aujourd'hui, il est encore dans l'esprit de tout le monde à Bordeaux. Je veux dire, il n'y a pas un étudiant qui passe à l'école qui sait pas que Claude Ferré a été le patron le plus connu et certainement respecté de l'école d'architecture de Bordeaux. Moi, je vous remercie tous les trois parce que mine de rien, j'ai quand même appris énormément de choses sur ma famille en lisant ce livre. Pour moi, c'est surtout un héritage culturel que je porte et vraiment un héritage culturel. Et puis ça a surtout été l'architecture, c'est un métier qui n'est pas forcément très connu du grand public, et moi je crois que j'ai eu la chance depuis toute petite de pouvoir connaître cette passion de très près et maintenant de me l'être appropriée et d'aujourd'hui en avoir fait et un métier mais surtout une passion, voilà.
Et ça c'était vous auriez pu faire autre chose que de l'architecture, où il y a quand même j'allais dire un poids, mais au bon sens du mot, familial, qui fait que voilà, quand on est fille, petite fille, arrière petite fille d'architecte, on a quand même un peu la voie qui est tracée.
Non, honnêtement, je pense que j'aurais pu faire autre chose. J'avais beaucoup, beaucoup hésité à faire des études d'art appliqué ou à partir dans la mode, etc., dans le stylisme. Mais je pense que j'ai eu la chance de baigner dans un milieu artistique et culturel qui a fait que j'ai été ouverte à ça depuis longtemps et que ça m'a plu et que j'avais envie de continuer. Alors c'est vrai que j'ai hésité et puis bon, voilà, j'ai été prise en archi à Bordeaux, ça m'a plu, j'ai été passionnée et du coup... Mais bon, peut-être que je n'aurais pas été prise à l'école d'architecture de Bordeaux, j'aurais fait une école d'art appliqué ou de graphisme. Je pense que, dans tous les cas, j'étais prédestinée, on va dire, à être dans un milieu artistique, mais bon, c'est l'architecture, voilà.
A priori, vous n'auriez pas fait notaire, quoi. Non. Bon.
Elle aurait pu faire du sportif.
C'est vrai, oui. Il faut le rappeler, oui, qu'elle était championne de gymnastique rythmique et sportive. Tout à fait, absolument. C'est vrai, absolument, tout à fait. Très bien. Bon, je crois que peut-être si tu veux dédicacer, si des gens veulent se faire dédicacer le livre par Christian et Philippe Combe, on va s'arrêter là. On vous remercie beaucoup d'être venu. On remercie Pierre et Vénézia Ferré, bien sûr, d'avoir participé, et puis à une prochaine conférence chez Mola. Merci, bonsoir. Merci.